protestante unie de Chartres, Beauce et Perche. Je voudrais aujourd'hui vous proposer de méditer sur l'histoire de Marthe et Marie. C'est dans Luc au chapitre 10, les versets 38 à 42. Je vous les lis. Comme ils étaient en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Marthe s'affairait à beaucoup de tâches. Elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissée seule à faire le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. C'est bien Marie qui a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » L'histoire de Marthe et Marie, une affaire qui m'a toujours paru fort injuste, à moi qui me sens plus Marthe que Marie, en tout cas plus terre-à-terre que mystique. Et il paraît que je n'aurai pas la meilleure part, ou en tout cas, qu'on a une meilleure part quand on ne fait rien, rien qu'écouter et prier. Que n'a-t-on à l'aide de ce texte opposé activité et contemplation, service et écoute, action et prière, travail et repos, cherchant tant bien que mal à justifier la supériorité de l'un sur l'autre, la meilleure part contre une moins bonne part peut être trop vite identifiée. Car en quoi consiste exactement cette meilleure part? Faut-il donc vraiment opposer complètement Marthe et Marie, en faire des sœurs plus ou moins ennemies? Et d'abord, qui est Marthe? Car c'est le plus souvent de Marthe qu'il est question. C'est elle qui joue un rôle déterminant? C'est elle dont il nous est dit qu'elle a une sœur appelée Marie. C'est elle, bien que femme, qui invite, et c'est d'autant plus étonnant que dans la société juive de l'époque, ce n'était pas la règle que cela se passe ainsi. Marthe fait donc là un acte provocateur. On pourrait aussi rappeler le destinataire hellénistique de l'évangile de Luc, milieu où les femmes avaient une plus grande autonomie. Ceci dit, la possible provocation ne va pas aller plus loin, et elle revient vite à une place plus habituelle pour une femme de son temps, s'occuper des affaires de la maison. C'est elle qui s'active pour bien accueillir Jésus, et puis c'est elle aussi qui prend la parole. Comme aussi dans l'autre épisode où on parle de ses deux sœurs, dans l'évangile de Jean, à propos de la mort de leur frère Lazare, l'ami de Jésus. Là encore, c'est Marthe qui prend l'initiative de sortir la première à la rencontre de Jésus, alors que Marie reste assise à la maison. Marthe est vraiment une femme entreprenante, pleine d'initiative, une parfaite maîtresse de maison. D'ailleurs, son nom en araméen signifie justement la maîtresse de maison. Elle en a certainement toutes les qualités. C'est bien Marthe qui reçoit Jésus. Gardons-nous donc de la disqualifier, car la dimension de l'accueil, de l'hospitalité est fondamentale pour lui. Elle n'est d'ailleurs probablement pas que cela, une bonne maîtresse de maison. D'après l'évangile de Jean, quand elle se rend à la rencontre de Jésus pour lui faire part de la mort de son frère, elle affirme sa foi avec conviction. « Je suis convaincue que c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Quant à Marie, on ne sait pas grand-chose d'elle, elle ne dit rien, au mieux on, Jésus-Christ en l'occurrence, lui adresse la parole. On aimerait que Marthe et Marie se parlent, qu'un face-à-face ait lieu. Mais dans l'histoire, pour se plaindre de sa sœur, Marthe ne s'adresse pas à elle, mais à Jésus, et celui-ci lui répond. Marie, elle, ne prend pas la parole. On pourrait quand même souligner que Marie a une attitude de disciple, normalement un homme, ce qui témoignerait de l'existence de disciples femmes et de leur possible accès à la parole. Pas plus que Marthe n'aurait dû inviter et accueillir Jésus, pas plus Marie n'aurait dû rester à l'écouter sans rien faire. Elle aurait dû s'activer comme sa sœur. Marthe parle alors que Marie se tait et écoute. Mais on ne peut pas dire que l'une est active et l'autre passive. Toutes deux, en fait, ne sont occupées que de lui. Marthe est tiraillée de toutes parts, comme nous l'indique le texte, par le service compliqué, multiple, dans lequel elle s'est engagée, et qui devient pour elle un piège. L'excès de soucis et l'impression de non-choix, comment tout préparer et rester avec ses invités, c'est une question toujours d'actualité. L'impression de non-choix, donc, le rendent lourd, voire invivable. Devant ces sollicitations multiples, elle éprouve un grand sentiment de solitude. Cela la conduit à apostropher Jésus. « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé seule servir? Dis-lui donc de m'aider. » Marthe, qui s'était totalement consacrée à bien accueillir Jésus, se met presque à le malmener. Elle conteste avec une sorte d'hostilité. Sa colère révèle ce qu'elle aimerait vraiment au fond et qu'elle ne se permet pas, s'accorder ce que Marie s'accorde et être avec le Seigneur. Soyons honnêtes, interpellée par Marthe sur l'attitude de sa sœur, la réaction de Jésus, paradoxale, paraît maladroite, injuste et difficile à comprendre. Maladroite car elle ne peut que renforcer l'agacement de Marthe. Injuste car, après tout, il bénéficie de la sollicitude et du travail de cette dernière. Difficile à comprendre car elle pourrait signifier qu'il établit une hiérarchie entre d'un côté l'action, le travail, les tâches pratiques, nécessaires mais secondes, et de l'autre les œuvres nobles de l'esprit et de la foi. En réalité, il a une réponse pleine d'affection pour elle. Souvent dans la Bible, la double interpellation traduit un sentiment d'affection et un appel fort à servir. Par exemple, le Seigneur appelle le jeune Samuel en prononçant son nom par deux fois. « Samuel, Samuel !» En disant deux fois son nom, « Marthe, Marthe », au verset 41, il ne la remet pas en place en la méprisant pour ce qu'elle fait. Il ne repousse pas son action. Au contraire, il manifeste pour elle de l'intérêt et de la bienveillance. En donnant raison à Marie de Béthanie, Jésus affirme-t-il la primauté de ceux qui méditent sur ceux qui savent faire? Les églises ont souvent répondu positivement à cette question. Mais elles ont aussi, et la réforme protestante en particulier, réhabilité l'engagement dans la société, la vie professionnelle et la responsabilité parentale. Mais surtout, Jésus n'a jamais déconsidéré l'action et encore moins l'attention à autrui. Avant de venir chez Marthe et Marie, il vient de raconter une parabole, celle du bon samaritain. Or, dans cette parabole, il donne justement en exemple celui qui agit, le samaritain, et tord aux religieux qui passent sans rien faire. Plus généralement, Jésus n'établit pas de hiérarchie entre les actifs et les contemplatifs. Il sait qu'il existe des personnalités qui ont besoin d'agir, et d'autres qui ont besoin de se ressourcer dans l'écoute, la pensée, la rêverie. Et il ne porte pas de jugement sur l'une ou l'autre de ses inclinaisons. Il le fait d'autant moins que lui-même alterne des phases d'activité intense et d'autres de recul et de retraite. Ainsi, Jésus ne reproche pas à Marthe d'être active. D'ailleurs, il ne lui fait aucun reproche. Ses paroles constatent avec justesse la situation et vont permettre à Marthe de se libérer des excès de son service. Elle s'inquiète trop, elle est trop prise par les obligations qui s'imposent à une trop bonne maîtresse de maison. Par contre, il la met en garde. En garde contre une forme de suractivité. Selon la traduction française, Marthe s'affaire. L'expression en grec employée par Luc est beaucoup plus forte. Elle est à la fois préoccupée, distraite, agitée et troublée. C'est comme si elle était écartelée, dissociée, fragmentée. Elle s'agite tellement qu'elle a perdu son unité. Par suite, elle est devenue indisponible. Indisponible à elle-même et à ses aspirations. Indisponible à la rencontre, à toute relation vraie, comme si elle était vraiment seule. Vous et moi, nous nous reconnaissons bien là dans cette contradiction humaine. Nous répondons présent aux nombreuses sollicitations que la vie peut nous offrir, et combien de fois, face au trop à faire, nous retrouvons-nous seuls et désemparés, voire exaspérés. Combien d'entre nous sont tellement mobilisés par leur travail, leur vie familiale, les contraintes matérielles, voire une démultiplication folle d'activités, qu'ils n'ont plus le temps de la rencontre, ni avec leurs proches, ni avec leur être profond, ni avec Dieu. Le risque est plus fort encore lorsque certaines de ces activités ont à voir avec l'Église, car ceux qui s'y investissent en arrivent parfois à croire alors qu'elles peuvent leur tenir lieu de vie spirituelle. L'histoire de Marthe, c'est la nôtre, parce que oui, nous sommes de ceux qui s'inquiètent et qui s'agitent pour beaucoup de choses. Et comment serait-il autrement? Le travail ne va pas se faire tout seul. Et si l'on veut que les choses avancent, il faut bien que certains aillent au charbon. La part de Marie est peut-être la meilleure, mais pas la plus efficace. Qui va préparer la prochaine réunion? Organiser le prochain repas pour les démunis? Faire le bulletin de la paroisse, si ce n'est pas nous? Pour remettre les choses à leur place, Jésus invite Marthe à quitter la multitude des préoccupations pour se tourner vers l'unique vraiment nécessaire. Il lui dit la nécessité de choisir la bonne part, à l'image de sa sœur Marie, dont il reconnaît la liberté, elle qui ne craint pas de s'attirer des reproches pour profiter de la présence de Jésus avant qu'il ne reparte. Il adresse à Marthe en quelque sorte une nouvelle vocation. Il la remet en contact avec son propre besoin et lui redonne une chance de choisir ce qu'elle veut vraiment, l'unique tâche nécessaire. Il la libère de sa propre impasse. Car ce qui est en jeu, ce n'est pas simplement la dispersion ou l'épuisement, c'est d'abord la joie que Marthe a perdue. Et aussi l'urgence de la rencontre avec le Christ, car c'est maintenant qu'il faut lui être disponible. Et c'est le choix que sa sœur a su faire. Alors, quelle est cette meilleure part qu'a choisie Marie? Qu'est-ce qui lui donnera la joie et ne lui sera pas enlevé? Eh bien, la meilleure part, c'est d'une certaine façon ce qui ne dépend pas de moi. C'est que Jésus permet à Marthe non plus d'avoir le seul souci des autres et de passer son temps à travailler, mais d'accepter qu'un autre ait le souci d'elle. Parce qu'en fait, ce jour-là, c'est bien avec Marthe que Jésus prend le temps de discuter. Cesse de croire que le salut de ton monde est au bout de ton balai. Cesse de croire que le salut de ta paroisse se trouvera dans les activités que tu porteras à bout de bras. Tu ne pourras partager que ce que tu as reçu. Et la seule chose inépuisable qui t'est donnée est l'amour et l'attention de ton Seigneur pour toi. Prends le temps de l'écouter. Il lui indique la priorité d'une vie centrée non sur le sens du devoir, mais sur la rencontre avec lui. Pour autant, il ne veut pas forcément qu'elle devienne comme Marie. En effet, on ne peut pas, on ne doit pas opposer les Marthes et les Maries. Elles habitent toutes les deux en nous. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a des temps de notre vie où nous recevons beaucoup, d'autres où nous donnons beaucoup. Le danger menace quand l'une ou l'autre de ces dimensions n'est pas concrètement honorée. Il me semble que nous sommes tour à tour des Marthes ou des Maries, parce qu'une Marthe sans un peu de Marie chaque jour, ce n'est plus une Marthe qui invite, qui se fait du souci pour les autres et pour que tout aille bien. Et une Marie qui resterait assise sur sa bonne part doit se relever. L'une et l'autre ont à manifester plus ou moins la même chose, même si c'est d'une manière différente. Elles ont à manifester que leur vie vient du Christ. Du coup, nous comprenons bien que la question qui nous est posée aujourd'hui est la suivante. Où est ma vraie place? Ou bien, suis-je vraiment à ma place aujourd'hui? Témoigner de la meilleure part de l'Évangile, ce n'est peut-être parfois pas tant agir pour boucher les trous que baisser les bras pour reconnaître notre faiblesse et notre lassitude. Et si parfois l'action la plus appropriée était justement de s'arrêter d'agir pour redécouvrir la grâce, redécouvrir la légèreté et la joie qu'avait fait fuir la certitude des obligations. Il ne s'agit cependant pas de juger qui que ce soit. Il ne s'agit pas de dire que quelqu'un est meilleur que l'autre. Il n'y a pas de hiérarchie dans les façons de servir Jésus. Il s'agit d'être confiant, parce qu'appelé à être au bon endroit, au bon moment. Et alors, le rôle que nous pouvons avoir est complètement justifié, qu'il soit dans le faire ou dans l'écoute. Et du coup, la joie est là, car il n'y a plus de place pour la jalousie et la rancœur. Pour finir, deux citations qui résument bien la situation, je pense. L'une de notre ex-pasteur Dina, « La prière nourrit l'action », et l'autre d'Antoine de Saint-Exupéry, tout acte est prière s'il est don de soi. Amen. Je vous propose enfin de prier. L'indisponibilité à Dieu n'est pas une maladie des temps modernes. Il y a presque 9 siècles, Bernard de Clairvaux avertissait ainsi le pape Innocent III le jour de son intronisation. Comment peux-tu être vraiment présent pour les autres si tu t'es perdu toi-même? Si tu passes toute ta vie en activité et si tu ne te crées plus d'espace pour le silence, je ne te soutiens pas. Commence à te découvrir pour que tu ne t'oublies pas en allant vers les autres. À quoi te sert-il de gagner le monde entier si tu t'y perds? Comment peux-tu être pleinement humain si tu t'es perdu? Toi aussi tu es un être humain. Pour que ta bonté soit parfaite, tu ne dois pas seulement être là pour les autres, mais tu dois avoir un cœur attentif à toi-même. À quoi cela te sert-il de gagner le cœur des humains en t'y perdant? Si toutes et tous ont le droit d'avoir une part de toi, sois alors aussi un homme qui a le droit de t'avoir. Pourquoi serais-tu le seul qui n'ait rien de toi-même? Combien de temps encore offriras-tu ton attention à tous sauf à toi-même? Tu te sens proche des sages et des fous et tu ne reconnais pas ce devoir d'être proche de toi. Tout le monde puise dans ton cœur comme si tu étais une fontaine publique et toi tu restes assoiffé à côté. Laisse ton eau couler tranquillement à travers les places, mais avec tout le monde, bois aussi l'eau de ta source. N'es-tu pas étranger à tous si tu restes étranger envers toi-même? Oui, celui qui est mal avec lui-même, avec qui peut-il être bon? N'oublie pas, offre-toi à toi-même. Je ne dis pas fais-le toujours, mais je dis fais-le de temps à autre. Sois comme pour tous les autres, présent pour toi aussi. Et comme en écho à ce texte, un beau trésor de la spiritualité protestante, une méditation de sœur Myriam, diaconesse de Reuilly. Dégage-toi dans la mesure même où tu t'engages sans compter. Prends de la distance dans la mesure même où tu communies fraternellement à autrui. Le cœur humain même le plus généreux n'est pas inépuisable. Dieu seul est illimité. À exiger sans cesse le maximum de lui-même, l'être profond se dissocie et se perd. La parole alors devient vide et la prière inquiète. Pour retrouver un regard libre sur les événements, il faut fuir et se tenir tranquille et rassemblé devant le maître de tout. Pars donc vers la source cachée de toute chose, quitte tout et tu trouveras tout. Prends le temps de vivre amicalement avec toi-même, respire, reprends haleine. Apprends dans le repos du corps et de l'esprit la calme lenteur de toute germination. Reçois la paix du Christ, ne te hâte pas, afin de mieux courir dans la voie des commandements, le cœur au large.